Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Il est un peu plus de 11h sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et nous allons aujourd'hui vous proposer un entretien avec Jean-Marie Laclaftine, romancier, nouvelliste et membre du comité de lecture chez Gallimard. Jean-Marie Laclaftine vient de faire paraître un récit aux éditions Gallimard, un récit qui a pour titre « Une amie de la famille ». Jean-Marie Laclaftine est l'auteur de 15 romans et recueils de nouvelles aux éditions Gallimard, parmi lesquels « Première ligne », « Goncourt des lycéens », « Le rouge et le blanc », Grand prix de la nouvelle de l'Académie française et dernièrement « Et j'ai su que ce trésor était pour moi ». Je vous lis un extrait de la quatrième de couverture du récit de notre invité de cette fin de matinée sur Radion. Le 1er novembre 1968, alors que nous nous promenions sur les rochers qui surplombaient la chambre d'amour à Biarritz, ma sœur aînée a été emportée par une vague. Elle avait 20 ans, moi 15. Il aura fallu un demi-siècle pour que je parvienne à évoquer ce jour et interroger le prodigieux silence qui a dès lors enseveli notre famille. Je suis parti à la recherche d'Annie. Je l'ai vue revenir intacte dans sa fougue, ses doutes, ses enthousiasmes, ses joies et ses colères. Une jeune femme d'aujourd'hui. Jean-Marie Laclaftine, une amie de la famille, c'est au programme de Wagon Livre. On marque une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour vous proposer cet entretien que j'ai enregistré lundi dernier à Dijon au Grand Hôtel de la Cloche alors que Jean-Marie Laclaftine était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. Bonne fin de matinée sur Radion, nous revenons dans une poignée de minutes. Wagon Livre, votre émission littéraire.
11h passées de quelques secondes sur Radion, voici Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et c'est Jean-Marie Laclaftine qui nous accompagne. Bonjour Jean-Marie Laclaftine.
Bonjour.
Très heureux, très fier de rencontrer un écrivain qui est l'auteur de 15 romans, beaucoup de recueils de nouvelles aussi, mais je pense qu'il y a plus de 15 romans. J'ai l'impression que votre éditeur Gallimard a un peu sous-estimé votre œuvre.
Je ne sais pas. Vous ne comptez plus. Je ne les compte pas, non.
Vous avez reçu des prix, notamment le Goncourt des lycéens, le Grand Prix de la Nouvelle de l'Académie française, s'il vous plaît. Et puis, depuis le début de cette année, un récit, parce que ce n'est pas un roman, c'est un récit.
Oui, oui.
Une amie de la famille disponible chez Gallimard. Alors, en fin de compte, vous écrivez, là je cite un extrait, page 33, « Il a fallu que mes parents meurent. Jamais je n'aurais pu revenir sur tout cela de leur vivant. » Tout cela, c'est l'histoire d'un secret très lourd qui a pesé dans votre famille. Alors, on est dans l'autofiction aussi avec ce récit. Comment qualifier littérairement ce texte ? C'est un récit ?
Oui, c'est vraiment un récit. Moi, je n'aime pas trop le terme d'autofiction parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et puis, en l'occurrence, il n'y a aucune fiction dans ce livre-là. Il y a vraiment une tentative de retrouver un passé perdu, oublié, effacé, de le retrouver avec le plus de précision possible. Le livre raconte aussi la difficulté qu'il y a à se pencher sur des événements importants, mais qui se sont déroulés il y a un demi-siècle et sur lesquels la mémoire a brodé ses légendes.
Alors en fait, Jean-Marie Laclaftine, le 1er novembre 1968, vous êtes un jeune adolescent de 14 ans et demi, 15 ans.
Oui, c'est ça.
Et c'est le drame dans votre famille. Je vous laisse le soin d'en parler.
Oui, c'est un événement majeur dans la vie familiale. Et ce jour-là, nous étions aller chez ma grand-mère à Bayonne et nous sommes partis nous promener sur les rochers qui sont sous le phare de Biarritz, au-dessus de la chambre d'amour à Anglette. Et nous étions quatre, mon frère aîné Bernard, ma sœur Annie qui avait 20 ans, donc 5 ans de plus que moi, et puis son petit ami Gilles. Et nous sommes allés sur ces rochers et la mer apparemment n'était pas si mauvaise, mais enfin il y a eu une vague plus importante que les autres qui nous a emportés, en tout cas qui a emporté Annie et Gilles. Bernard et moi avons réussi à nous accrocher au rocher, et Gilles a été sauvé, mais Annie n'en est pas revenue.
Et en fin de compte, la disparition de cette grande sœur, vous y revenez, là c'est une vague mémorielle qui revient 50 ans après. Et alors, en plus, il y a une formule tout à fait surprenante dans votre roman. Vous dites que finalement votre naissance, votre véritable naissance, elle date du 1er novembre 1968, jour de ce drame qui a bouleversé votre famille, mais qui l'a bouleversé ensuite dans le silence.
Oui. Le besoin que j'ai eu d'écrire ce livre, c'est d'abord de sortir de ce silence total, enfin pratiquement total de 50 ans, un silence très mystérieux, presque comme un sortilège qui a paralysé notre famille, enfin qui l'a figé en tout cas dans un silence absolu, parce qu'il était trop douloureux d'évoquer la figure d'Annie, d'évoquer cet événement, cette perte. Et donc, 50 ans plus tard, j'ai été apparemment délivré du sortilège. Je me suis dit qu'il fallait que je le raconte. Alors, ça n'était pas simple, parce que, en fait, je me suis rendu compte que si nous avions respecté ce silence pendant si longtemps, c'était parce que nous ne supportions pas la souffrance de nos parents. Quand je dis nous, ce sont mes frères et moi. On ne pouvait pas en parler parce que ça remuait des choses beaucoup trop déchirantes pour eux. Et donc, je dis dans le livre à un moment que Annie n'était pas du tout oubliée. Nous ne l'avons pas effacée, elle. Chacun se souvenait d'elle avec beaucoup d'amour. Mais il était impossible d'en parler. C'était comme si son fantôme se promenait parmi nous. Et à chaque fois que l'un d'entre nous s'apprêtait à parler d'elle, le fantôme s'approchait et posait sa main sur notre bouche.
Mais Jean-Marie Laclaftine, le drame survient 1er novembre 68. Le 1er novembre, c'est la Toussaint. Et cette date qui revient, qui est fêtée, qui est jour férié en France, ça devait être quelque chose justement, un cycle de douleur qui revenait en plus avec cette date bien particulière. Oui. Parce que vous parlez de la mémoire, on va y revenir sur la mémoire, les dates, l'imprécision que l'on a des choses, des êtres, de leurs propos, de différentes choses. Vous êtes un athlète de l'amnésie, mais on y reviendra.
Oui.
Alors ce 1er novembre dans la famille.
Le 1er novembre, d'autant plus que mes parents étaient très catholiques, ça aussi on y reviendra parce que c'est un élément important de notre histoire. Et chaque 1er novembre, mes parents allaient à Bayonne, mais ils y allaient seuls en fait. Moi je n'y suis jamais allé avec eux.
Et vous n'étiez pas convié ?
Si, je pense que nous étions conviés. Vous voyez, dans ce « je pense », il y a déjà quelque chose d'assez vertigineux, parce que comment puis-je avoir oublié ça ? Mais c'est pourtant vrai, c'est-à-dire que ces événements sont tellement puissants que j'ai du mal et que je ne suis pas le seul. Je m'aperçois, je reçois beaucoup de courriers à cause de ce livre et je m'aperçois que c'est très partagé en fait par beaucoup de gens, des gens qui ont vécu des pertes très, très graves et très importantes. Ils connaissent la qualité très particulière de ce silence. Et tout à l'heure, vous me posiez la question à laquelle je n'ai pas répondu d'ailleurs sur la naissance à 15 ans. Dans le livre, oui, au début du livre, je dis « je suis né à 15 ans » parce que, en effet, l'expérience de la perte, quand elle est aussi dramatique, aussi bouleversante, des parents qui perdent un enfant de 20 ans, c'est absolument atroce. Et quand c'est à ce point traumatisant, disons, on passe de l'autre côté du miroir. Je pense qu'on devient vraiment quelqu'un d'autre. Moi, j'ai toujours été absolument persuadé que jamais je n'aurais écrit, jamais je ne serais devenu écrivain. J'ai toujours aimé la littérature, même avant la mort de ma sœur, mais jamais je n'aurais imaginé aller vers l'écriture. J'aurais sans doute connu un destin beaucoup plus... conforme aux vœux de mes parents, aux habitudes de la famille. J'aurais un peu grimpé dans l'échelle sociale en devenant professeur, par exemple. Voilà. Et ça n'a plus été possible à partir du moment où j'avais eu ce contact très, très direct et très violent avec la mort.
Si vous le voulez bien, Jean-Marie Laclaftine, nous allons marquer un nouvel intermède musical à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, et puis on se retrouve juste après pour continuer d'évoquer avec vous votre récit, disponible en librairie aux éditions Gallimard, Une amie de la famille. Très bonne fin de matinée sur Radion, c'est votre émission littéraire et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Plus envie de lutter avec le temps. Chaque nuit, je détruis mes insomnies. Mon cœur qui flanche, mes souvenirs aussi. Mais en somme, si je perdais.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Vous expliquez, je vous lis Jean-Marie Laclaftine. J'en connais qui sont nés à 9 ans, une après-midi d'été, dans une chambre moite, par simple imposition des mains d'un oncle libidineux. À partir de ce moment, tout est possible. Soit la descente au gouffre, le souffle coupé, la succession des rebonds de rocher en rocher jusqu'au fond, au suicide, à l'hôpital des fous, à la perdition médicamenteuse, aux ivrogneries en tout genre, à la reproduction appliquée des horreurs et des supplices. Soit le refus, la victoire au finish, la revanche de la vie sur la saloperie. Il faut vraiment avoir envie de naître. Pas besoin pour cela des secours d'une sage-femme. Un pare-choc suffit qui heurte votre enfant à la volée et l'expédie dans le walala de l'absence. La vraie vie commence. Et d'ailleurs, un peu plus loin, vous écrivez « C'est ainsi ». Que la vie commence, c'est ainsi que naissent les œuvres d'art et les romans, c'est ainsi qu'on échappe parfois sans l'avoir choisi, par la douleur, à l'anesthésie commune. Mais finalement, vous écrivez, c'est pas un livre thérapeutique, vous ne croyez pas tellement au pouvoir guérisseur des mots.
Non.
Parce qu'il y a beaucoup, d'auteurs, ça c'est un petit peu une espèce de poncif, un peu bébête, pardonnez-moi, c'est un point de vue.
Surtout en ce moment.
Où les gens écrivent pour se libérer d'un drame. On est quand même dans une époque où on installe vite une cellule de crise
absolument.
De nos jours.
Mais on le voit sur les affiches dans les gares. Je sors de la gare, là, il y a des affiches sur des livres qui sont censés nous faire du bien. Pourquoi pas, hein, moi je n'ai rien contre, mais je pense que la littérature c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une thérapie, il s'agit d'un partage. C'est très différent. C'est-à-dire que quand on écrit, quoi qu'on écrive, que ce soit un roman, un récit, une nouvelle, on écrit pour être dans l'humanité universelle et pour lancer des passerelles et pour retrouver les gens, retrouver les autres, retrouver autrui.
D'ailleurs, oui.
C'est le but de la littérature, c'est ça. Moi, je ne cherche pas à me soigner. D'ailleurs, je pense, j'ai remarqué, après avoir écrit ce livre, que la mort de ma sœur, qui a été un événement extraordinairement douloureux dans ma vie, vraiment une tragédie. En 50 ans, j'avais quand même fini, non pas par l'oublier, mais par voir cette douleur tout à fait atténuée. Je pouvais la regarder, en parler... la ressentir avec une certaine sérénité. Et je me rends compte qu'en ayant écrit ce livre, c'est-à-dire en étant parti à la recherche de ma sœur, qui elle était, de l'avoir retrouvée dans sa vie, dans ses rires, ses colères, elle me manque aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a 2 ans, quand je n'avais même pas le projet d'écrire ce livre. Aujourd'hui, elle me manque vraiment. Et donc la littérature ne m'a pas consolé, elle m'a rendu vivant. Je crois que c'est ça le propre de la littérature, c'est qu'elle fait circuler la vie d'un cœur à l'autre.
Est-ce que maintenant, depuis l'apparition d'une amie de la famille, est-ce qu'Annie n'existe plus? Est-ce que l'écriture de ce récit a aplani, écrasé le souvenir d'Annie?
Non, je crois au contraire qu'elle existe beaucoup plus.
Ce que vous dites, ce livre, ce texte n'est pas un monument funéraire.
Voilà.
Vous mettez bien en garde le lecteur. Vous dites, je ne veux pas faire un...
Ah non, je ne voulais surtout pas ça. Je voulais vraiment que ce soit un livre vivant. D'ailleurs, au début, je ne savais pas trop ce que je voulais, à vrai dire. Quand j'ai commencé l'écriture de ce livre, je me suis... D'abord, j'ai eu un rêve récurrent que je raconte dans le livre, qui, comme un appel, c'est-à-dire que je voyais une femme en robe blanche, sans manches, une robe d'été, un peu élégante, qui était de l'autre côté d'une place. Moi, j'étais attablé en train de boire une bière. Et je voyais cette femme qui se penchait vers un gamin des rues, et qui lui donnait une pièce, visiblement. Et le gamin détalait en courant. Et elle était vraiment de l'autre côté du carrefour et je n'arrivais pas à distinguer ses traits. Et quelques instants plus tard, à côté de ma table, il y avait le gamin qui me portait un bouquet de fleurs blanches. Et à ce moment-là, je levais les yeux vers la femme, mais elle avait disparu. Et je comprenais que cette femme, ou je croyais comprendre à ce moment-là, que cette femme, c'était ma mère. Et je trouvais très beau que ma mère me fasse signe et qu'on vive dans un monde où les morts offrent des fleurs aux vivants, parce que d'habitude c'est plutôt le contraire. Mais à la réflexion, je me suis dit que cette robe blanche que je lui voyais, que je voyais sur elle, je n'avais jamais vu ma mère avec. Et qu'en réalité, cette robe, je la connaissais, je l'avais vue, et je l'avais vue et revue sur une photo où ma sœur la portait. J'ai compris que c'était ce rêve récurrent était une sorte d'appel de ma sœur qui me disait ramène-moi à la vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ce texte. Mais quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, ben, prenons là où tout a commencé, c'est-à-dire le 1er novembre 68, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Et là, je me suis rendu compte que c'était très difficile de reconstituer l'événement, de savoir exactement comment nous étions venus à Bayonne, toute la réalité de cette période-là, elle était très difficile à ressusciter. Et je me suis rendu compte aussi que certaines certitudes que j'avais, sur le fait qu'on était descendu en voiture, que l'accident s'était passé à telle ou telle heure.
Est-ce que vous aviez mangé du poisson
au
déjeuner chez marraine, la grand-mère, qui était donc la marraine d'Annie, votre grande sœur.
Et qui était une grande cuisinière par ailleurs. J'avais des certitudes là-dessus et je me suis rendu compte que dès que j'ai commencé à fouiller un peu dans les articles, dans les traces écrites concernant cet événement, que je m'étais trompé complètement, que c'était et que j'avais de faux souvenirs. Et là, je me suis dit, dès que j'ai découvert la première erreur, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je corrige mon texte pour remettre les bonnes dates, les bonnes heures, les détails véridiques ? Ou au contraire, est-ce que j'avance en montrant du doigt à chaque fois toutes les erreurs que j'ai faites et toutes les fausses pistes que ma mémoire a induites. Et je me suis dit que c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus vivant de raconter mon enquête, ma quête au jour le jour, en faisant état de toutes mes erreurs qui sont parfois assez comiques, parce que c'est assez drôle de voir à quel point on se trompe, à quel point la mémoire invente des souvenirs. Et ainsi, je pouvais faire de ce livre un livre vivant, qui ne soit pas un hommage funèbre gravé dans le marbre.
D'ailleurs, vous utilisez la métaphore de la mosaïque. Finalement, vous essayez de reconstituer... 50 ans après ce drame, donc la noyade de votre grande sœur Annie, à Bayonne, vous essayez de reprendre des petits éléments et de reconstituer la mosaïque. Et vous dites d'ailleurs que c'est presque la première fonction de la littérature, c'est-à-dire redonner signification à l'épars, rassembler les choses. C'est aussi une jolie conception de ce qu'est l'écriture et la littérature.
Oui, et l'art en général, je pense que c'est ce qui donne un sens nouveau au monde. Et tout ce chaos mémoriel dans lequel nous vivons, dans lequel j'ai vécu pendant des décennies, la littérature peut lui donner une forme, un sens et une beauté aussi.
D'ailleurs, à certains moments, vous confessez dans votre récit, j'invente tout cela, bien sûr. Comment savoir les mots qui ont été prononcés, comment imaginer la réaction de Dominique. Enfin, et ça a été aussi pour vous une enquête, vous l'avez utilisé le mot, et il a fallu aussi ressoulever ce drame auprès de votre grand frère, donc c'est... J'ai oublié son prénom, c'est Bernard, qui est devenu médecin par la suite. Et puis, c'est la fille de Bernard aussi, il y a les nièces qui avaient envie de s'intéresser à cette tante disparue. Donc, oui, il y avait vraiment... D'ailleurs, vous parlez, vous dites, est-ce que c'est un secret honteux? Il y avait un silence. Vous parlez même d'étranges cultes mutiques dans la famille autour de la disparition d'Annie.
Oui, ce silence était très étrange et très perturbant, je m'en suis rendu compte, pour la génération suivante, c'est-à-dire pour mes filles, par exemple, j'ai trois filles, et ma fille aînée, Lise, a vécu vraiment ce silence comme un mystère dérangeant et très, très perturbant. Elle a tout fait. À partir du moment où elle a découvert l'existence de cette tante, assez tardivement, elle devait avoir 7 ou 8 ans, je crois. Elle a commencé à poser des questions auxquelles elle n'obtenait pas de réponse. Et elle s'est mise à fouiller dans les papiers, à interroger de façon très obstinée ses grands-parents, ses parents aussi, moi-même. Mais moi, j'étais incapable de répondre. Et tout ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en commençant à écrire ce livre. Et quand je lui en ai parlé, elle m'a montré une lettre qu'elle avait écrite, parce qu'elle m'a dit, tu sais, ce livre que tu commences à écrire, d'abord je suis stupéfaite que tu commences à l'écrire après tant de silence, et je suis stupéfaite et enchantée évidemment, mais moi j'ai voulu l'écrire ce livre parce que je ne supportais pas ce silence. J'ai pas réussi à l'écrire parce que je manquais d'éléments, et puis je n'ai jamais connu cette tante, j'ai jamais connu Annie, mais je lui ai écrit une lettre. Et en 2013, elle a écrit une lettre qu'elle m'a montrée, qui est reproduite intégralement dans le livre, qui est très belle, où elle s'adresse à Annie en lui disant ce que ça a été pour elle de vivre avec un fantôme et avec des gens qui, dès qu'on évoquait sa présence, visiblement souffrait de ce souvenir.
Souvenir, drame, mémoire, écriture, c'est au cœur de l'entretien d'aujourd'hui dans Wagon Livre avec notre invité Jean-Marie Laclaftine qui signe Une amie de la famille, un récit disponible aux éditions Gallimard, un nouvel intermède musical à bord de votre émission littéraire. Et nous nous retrouvons juste après avec notre invité, toujours sur Radion et à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Chris.
Me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elle rit de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. Tap tap t'appuie au hasard pour la faire jouir. Que faire? Thank you. là qui sucera mes amours dessus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cachume. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps menti entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi.
Que faire
de l'énergie que je perds.
Quand je te veux,
t'aimes, dis-moi comment mieux.
Que faire
de l'énergie que je perds.
Quand je te veux,
t'aimes, dis-moi comment mieux.
Chris, I don't know why you're tripping.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci d'être avec nous en cette fin de matinée sur votre radio locale. Nous avons aujourd'hui le plaisir de nous entretenir avec Jean-Marie Laclaftine, romancier, nouvelliste, plus de 15 romans et recueils de nouvelles parus aux éditions Gallimard. Ce matin, nous nous intéressons à son dernier récit, paru chez Gallimard et intitulé « Une amie de la famille ».
Une petite explication sur le titre du récit. Il y avait donc un portrait d'Annie chez oui. vos parents. Alors je crois qu'un jour, un copain de votre frère lui dit qui est cette jeune femme oui. et il lui répond, c'est une amie de la famille.
Voilà.
Ne voulant pas dire, c'est ma sœur qui est morte.
Parce qu'il ne pouvait pas, comme nous tous, il était frappé par ce sortilège dont je parlais. C'était trop difficile, parce que s'il avait donné la bonne réponse, s'il avait dit c'est ma sœur qui est morte de telle façon, en telle année, il aurait fallu faire remonter tous ses souvenirs extrêmement douloureux, il aurait fallu donner des explications, expliquer par exemple pourquoi il n'en avait jamais parlé à ce copain qui était un très très bon copain, c'est son meilleur ami. Eh bien, ma femme par exemple, avec que j'ai connu très peu de temps après la mort d'Annie, on vit ensemble depuis très longtemps, elle n'a appris l'existence d'Annie qu'au bout de 6 ou 7 ans, après m'avoir connu. Et elle l'a apprise par Dominique, qui a juste fait une allusion comme ça. Moi, je n'en parlais jamais.
Alors, on a parlé effectivement de cet étrange culte mutique dans la famille, mais alors au silence dans la famille, finalement, il y a tout de même maintenant, il y a la matérialité des mots de ce roman, c'est aussi amusant. Et puis, il y a cette vague qui a emporté Annie, mais j'ai pensé aussi à l'adjectif vague, le flou qui régnait dans cette famille autour du spectre d'Annie.
Oui.
Vous avez parlé de fantômes, ce flou, quelque chose de vague, et cette vague, elle est là, et elle est même représentée dans une peinture.
Oui.
Ça, je vous laisse le soin de nous en parler un peu.
C'est Lise qui me l'a fait remarquer, et je n'avais jamais réfléchi à ça, mais mes parents, après cet accident affreux, qui a vraiment complètement bouleversé leur vie, d'abord, ils ont acheté une maison, une résidence secondaire tout près de la chambre d'amour, là, au-dessus de Bayonne.
Là où a eu lieu le drame, donc.
Oui. On aurait pu penser qu'ils cherchent à s'éloigner de cet endroit. Enfin. Et dans leur chambre, dans cette maison, il y avait un tableau qui représentait une vague. Un tableau que j'ai toujours vu. Et ils ont choisi de dormir tous les jours, de se coucher face à ce tableau de cette vague. Et c'est quand même étonnant, la présence, dans un silence total, la présence malgré tout d'Annie et de cette vague et de cet événement.
Mais la vague a emporté Annie, mais il y a une sorte de mouvement de balancier où vous-même, la vague, vous la faites remonter Annie oui. à la surface, à la mémoire,
oui.
par le biais de ce récit chez Gallimard.
Oui, bien sûr. Et la vague est très présente dans le livre parce que c'est un élément métaphorique aussi, très, très important dans ma vie, dans nos vies. Et cette vague qui a emporté Annie, elle a aussi emporté beaucoup de bonheur, beaucoup de vie. Mais elle est revenue aussi régulièrement, en permanence, comme un ressac. Et nous n'avons jamais cessé de vivre avec elle.
Et vous dites d'ailleurs, à propos de cette vague fatale, mais celle-là, c'était la nôtre.
Oui, c'était la nôtre, parce que je raconte ce moment où nous marchions sur les rochers, insouciants. On était très jeunes, Annie était très amoureuse, et elle sortait d'une période qui était vraiment une période d'adolescence très très difficile. Elle était très révoltée, très...
Des problèmes d'anorexie aussi.
Elle avait eu des problèmes d'anorexie, elle était rebelle.
Volcanique, c'est volcanique, l'adjectif que vous utilisez.
Oui, c'était un tempérament très fort qui n'a laissé personne indifférent, parce qu'à chaque fois que j'en ai parlé depuis, pendant que j'écrivais ce livre, avec des gens qui l'ont connu, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué beaucoup, beaucoup les mémoires.
Et puis elle remplaçait un peu votre maman lorsque votre maman n'était pas disponible. Elle a été, elle vous a un petit peu... elle s'est occupée de vous. Elle vous grondait.
Oui. Elle s'est surtout occupée de mon petit frère, parce que mon frère Dominique a 7 ans de moins que moi. Donc il était petit et ma mère travaillait. Donc Annie a été vraiment une sorte de seconde maman pour lui. Et le deuil pour lui a été assez différent de ce qu'il a été pour nous.
Alors, on a parlé de la vague. Le récit est illustré de photographies d'Annie, notamment. On vous voit, vous, tout jeune garçon, sur un chemin avec Annie. Et alors, vous avez parlé de ce travail, de cette enquête. Hein. Donc, bien sûr, il y a les témoignages, il y a le fait d'avoir parlé avec votre frère Bernard, de dire, tu te rappelles, qu'est-ce qu'on avait mangé, pourquoi on est allé se promener Enfin, finalement, Bernard, lui, il était devant un documentaire à la télévision.
Dominique.
Dominique est le plus jeune. Lui est resté regarder un documentaire en noir et blanc sur Napoléon à la télévision. Ouais. Donc avec votre frère Bernard, donc vous essayez de reconstituer un petit peu le pré-drame. Il y a aussi des lettres, donc des témoignages écrits. Il y a la correspondance de vos parents. Il y a la valise ayant appartenu à Annie, dans laquelle se trouvent des bibelots. C'est très émouvant d'ailleurs. Il y a la photographie reproduite, il y a un ours en peluche, des bibelots. Et puis, à l'extrême fin de votre récit, il y a la photographie de la montre que Gilles, donc le petit ami d'Annie, lui avait offerte. Et c'est absolument... Vous voulez nous lire le dernier paragraphe? Moi, je trouve ça...
Le dernier paragraphe, oui.
S'il vous plaît, Jean-Marie Laclaftine.
Annie avait reçu cette montre en cadeau lors de sa communion solennelle. Elle la portait tous les jours, on la voit sur la plupart des photos. Un petit bijou simple, en or, au fin bracelet de cuir. Elle l'avait au poignet le jour de l'accident. Son mécanisme a été détruit en 10 minutes par l'eau de mer. Elle est restée bloquée à 15h45, l'heure de la fin de tout et de notre naissance.
Ça c'est très fort d'avoir terminé finalement sur le temps, puisqu'il est beaucoup question de mémoire, du temps qui nous échappe, du temps qu'on veut parfois retrouver. Et puis aussi, qu'est-ce que la vraie vie? Parce que vous parlez de la vraie vie, on en a parlé au début de l'entretien justement. Alors Marcel Proust disait la vraie vie, la seule vraie vie, c'est la littérature. Je me demande si finalement Annie... La disparition d'Annie, 50 ans après, quand bien même vous avez déjà une œuvre importante, a fait vivre vraiment la vraie vie, la vraie vie littéraire. Oui. C'est peut-être, ça se trouve, dans votre œuvre, ce texte sera peut-être le plus puissant.
Oui, j'ai eu l'impression, quand j'ai terminé ce texte, que peut-être que je n'avais écrit tous mes autres livres, tous mes romans, que pour aboutir à celui-ci. Il y avait une sorte d'évidence. D'abord, je l'ai écrit vraiment dans une sorte de joie, de simplicité, d'évidence, et qui était très frappant, ce qui n'est pas le cas des romans, parce que les romans, c'est assez compliqué et douloureux à écrire. Là, c'était simplement joyeux. Et ce qui est un peu étrange pour un livre qui raconte un tel deuil. Mais justement parce que la littérature ne répare pas, elle ne console pas, mais elle est la vie.
Et là, elle réconcilie un peu. avec quelque chose qui nous manque.
Elle nous montre la beauté de la vie, même quand celle-ci est perdue. Elle nous montre le prix de l'existence et de chaque instant. Et c'est ce qui rend les livres indispensables.
Néanmoins, page 53, Jean-Marie Laclaftine, vous écrivez que celui qui écrit ce texte, hein, c'est vous, celui qui finalement ramènera Annie à la vie par la magie des mots, c'est bien vous.
Oui, c'est un...
Vous redonnez vie à Annie dans ce texte, alors que le récit se termine sur les aiguilles figées de cette montre qui a arrêté le temps. Oui. Et là, le temps redémarre pour Annie. J'allais dire, la mécanique de la mémoire permet à Annie de revivre à travers ces pages. Et vous redécouvrez une grande sœur que vous aviez peut-être beaucoup oubliée.
Oui, et je la fais exister pour d'autres qui ne l'ont même pas connue. C'est-à-dire pour des lecteurs qui simplement par la grâce des mots, de la littérature, découvre une personne. C'est pour ça tout à l'heure je disais, peu importe qu'on écrive des romans ou des récits, ce qui importe c'est que chaque livre est une fenêtre ouverte sur l'humanité, sur ce que nous sommes profondément, et nous permet de connaître d'autres personnes, de connaître autrui. Je reçois vraiment... beaucoup de courriers, c'est très touchant, c'est même parfois bouleversant de voir à quel point cette expérience a pu être partagée par la lecture et à quel point Annie vit d'une certaine façon maintenant dans le cœur de beaucoup de gens.
Votre sœur aînée, donc Jean-Marie Laclaftine, Annie, disparue le 1er novembre 1968, vit donc désormais dans le cœur de beaucoup de gens à travers le récit que vous avez fait paraître aux éditions Gallimard, une amie de la famille. Je vous rappelle que si vous venez de nous rejoindre, c'est Wagon Livre sur Radion, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On se retrouve juste après la petite virgule musicale que nous vous offrons.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Si vous avez manqué le début de l'entretien que nous vous proposons aujourd'hui avec notre invité Jean-Marie Laclaftine, qui signe un récit disponible aux éditions Gallimard intitulé « Une amie de la famille », c'est très simple, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site d'archives de votre émission littéraire via Internet. Il suffit de pianoter le www.yannickpetit.fr et vous retrouvez bien évidemment avec plaisir et curiosité l'entretien que nous vous proposons en cette fin de matinée sur Radion.
C'est presque d'une certaine manière, j'exagère, c'est pas tout à fait ça, on pourrait dire que c'est presque un polar d'un homme qui mène une enquête, qui récolte des indices, des témoignages oraux, il y a la correspondance, il y a les objets. Et puis alors, il s'agissait de retrouver le petit ami d'Annie, parce que le petit ami d'Annie, le 1er novembre 68, il a 22 ans, il se prénomme Gilles. Et malheureusement, dans l'espace d'Internet et du virtuel, vous avez tenté différentes adresses électroniques, surtout que ce garçon, comme Annie, faisait des études de langue espagnole et de civilisation espagnole, donc il avait fait paraître, ou il avait travaillé un ouvrage collectif sur des termes espagnols, je ne sais plus dans quel domaine, et il s'agissait aussi d'essayer de retrouver Gilles, qui vit à l'heure actuelle. Oui.
Gilles vit...
Il a plus de 70 ans, alors...
Oui. Je l'ai retrouvé.
C'est extraordinaire. Retrouver le petit copain.
Ce qui est miraculeux, c'est que dans cette enquête, donc, qu'a constitué l'écriture de ce livre, et en effet, ça a quelque chose un peu d'un polar. Tous les éléments se sont imbriqués les uns dans les autres miraculeusement, comme si il y avait une sorte de grâce qui me permettait d'avancer. Pas à pas, avec des éléments nouveaux à chaque fois, en faisant des découvertes et en avançant, en progressant dans la recherche de Gilles, qui est évidemment l'élément central, parce que lui, je savais qu'il pouvait me donner des éléments essentiels sur Annie, des choses que je ne connaissais pas, me dire comment elle était dans sa vie à elle, dans la vie qu'elle partageait avec lui, ce qu'un jeune frère ne connaît pas de sa sœur.
Et vous avez découvert une grande sœur excessive,
oui.
Dans l'alcool, expériences, une volonté de liberté.
Oui. J'ai découvert aussi toute une époque, ou redécouvert, toutes ces années 60, qui étaient des années, le début des années 60, c'était vraiment très très difficile pour les filles. C'est-à-dire que 68 a vraiment soulevé un couvercle et permis des avancées inimaginables dans la vie quotidienne, dans les mœurs. Et Annie souffrait beaucoup de ces contraintes qu'on imposait aux jeunes filles à cette époque. Et elle est morte en 68, c'est-à-dire quelques mois après le mois de mai. Et je pense que ça, c'est aussi très révélateur tout ce que j'ai découvert dans sa correspondance, parce que j'ai pu donc avoir accès à des lettres par Gilles. Écrite par ma sœur, toute une correspondance. Et puis il y a aussi la correspondance de mes parents que j'ai beaucoup utilisée, qui est très riche et très, très passionnante.
Émouvante aussi sur l'amour qu'ils se portaient l'un et l'autre.
Oui, c'était un couple extraordinaire. Ils se sont aimés jusqu'à la dernière minute. Ils sont morts très âgés. Mais ils étaient complètement amoureux. Et c'était très fortifiant pour toute la famille, je pense, d'avoir ce couple extraordinaire près de nous. Et tout ça, leur correspondance, parce qu'ils se sont beaucoup écrits quand ils étaient jeunes, parce que mon père était cheminot, donc il était en mission tout le temps, il voyageait beaucoup, il allait dans des petites gares paumées dans tout le sud-ouest, tandis que ma mère restait à Bordeaux avec nous, avec ses enfants. Mais ils s'écrivaient tous les jours, parfois deux fois par jour, et des lettres merveilleuses, vraiment très, très bien écrites, que j'ai découvert donc très récemment, parce qu'elles étaient entreposées dans mon grenier, et je n'avais jamais eu la curiosité d'aller les voir, peut-être par pudeur aussi. Quand j'ai décidé d'écrire ce livre, je suis allé lire cette correspondance, et j'ai vraiment... fait des découvertes merveilleuses.
Et c'est amusant parce que finalement, votre maman, Jeannine, écrit à votre père, dont j'ai oublié le prénom,
Jean.
Jean. Et elle lui raconte un petit peu comment ça se passe. Elle lui écrit tous les deux jours. Hein. Ouais. Elle lui raconte un petit peu les difficultés qu'elle a avec vous, notamment, qui est un enfant turbulent, apparemment. Vous étiez le Attila de la famille.
Oui, oui.
Avec des fessées préventives avant de faire la route pour vous calmer.
Je ne connais pas d'autre exemple d'enfant qui ait reçu des fessées préventives. On partait en voyage, j'étais tellement pénible que, enfin, c'est arrivé au moins une fois. J'ai reçu une fessée préventive comme ça. Mes parents s'étaient dit que j'allais bouder pendant tout le voyage et ils seraient tranquilles.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'éducation catholique de vos parents, l'attachement à la religion catholique. Il y a un passage sur les prêtres ouvriers, sur l'engagement politique aussi de vos parents. Votre père a été un adhérent du Parti Socialiste jusqu'à la fin. Votre maman, elle était plutôt rocardienne. Elle avait beaucoup d'admiration pour Michel Rocard. Et puis vous, il y a quelques petits coups de griffe aussi dans ce roman, parfois. Par exemple, alors ça, ce n'est pas le coup de griffe, mais j'ai relevé la question, et là, je vous la soumets. Enfin, la question au sens gentil, hein, pas médiéval du terme. Page 121, vous écrivez « Que ferait le Christ s'il revenait parmi nous ?»
Oui, mais...
Cela vous fait sourire.
Oui, ça me fait sourire parce que c'était... mes parents étaient très catholiques et moi, je suis devenu anticlérical assez rapidement. Peut-être justement à cause de la fréquentation de trop de prêtres. Mais c'est une question qui me fait sourire parce que c'était un sujet de conversation et de plaisanterie aussi. Mes parents ont toujours respecté mes choix parce que très tôt je me suis écarté de l'Église et de leur foi et je pense que ça leur a fait de la peine, mais ils ont respecté ça. Et ça ne nous empêchait pas d'avoir de vraies discussions. Et j'ai pensé que l'accident, la mort de ma sœur, avait fait basculer mes parents vers, disons, la gauche du catholicisme. Avant novembre 68, ils étaient plutôt traditionnalistes, un peu réactionnaires. Et j'ai découvert dans leur correspondance que pas du tout. Ils étaient justement très, très ouverts à la frange... social du catholicisme et notamment à l'expérience des prêtres ouvriers dont ils parlent dans certaines lettres. Et ils ont beaucoup souffert de la position du Vatican qui a mis un terme à cette expérience des prêtres ouvriers, par exemple. Et je les ai vraiment redécouverts dans leur questionnement. Ils étaient très... Leur foi religieuse n'était pas du tout... paisible, c'était vraiment une foi inquiète et qui se remettait en question constamment. Et c'est très beau à voir.
Alors, j'ai précédemment parlé de quelques coups de griffe.
Oui.
Page 125. J'adore citer les pages. C'est. Vous écrivez, Jean-Marie Laclaftine, « Petite parenthèse sur le frère Bernard, que j'ai bien connu. Il avait un penchant très catholique, je m'en souviens, a passé sa main longuement dans le dos des enfants entre chemise et peau. Il faut croire que cela m'a infusé, très fugitivement, le virus de la vraie foi, puisqu'une lettre de ma mère raconte cette anecdote charmante. » Et puis alors un peu plus loin, vous parlez de frère Bernard encore, qui propose à votre frère, en pleine poussée d'hormones pieuses, une petite retraite en camping avec quelques futurs séminaristes. Quoi de plus rassurant pour des parents croyants, en effet. Bon. Là, c'est Annie qui avait oublié la carte et finalement, le frère n'est pas parti faire cette... Et vous en êtes bien heureux. C'est sévère, quand même.
Oui, c'est sévère. Enfin,
surtout que ça reste un peu... Il y a eu une actualité brûlante il y a quelques mois aussi autour de tout cela.
Mais justement, pas seulement il y a quelques mois. Je pense qu'il y a une actualité constante et pesante à ce sujet. Mais enfin, ça n'est pas le sujet de mon livre.
Hein, pas le sujet du livre. Néanmoins, c'est un petit
Mais
coup,
ça m'amuse parce que ma grand-mère, que j'aimais beaucoup, ma grand-mère de Bayonne, dont je parle beaucoup dans ce livre,
personnage
qui était
aussi.
La marraine d'Annie, justement. C'était un très très fort caractère, elle avait été éprouvée par la vie, elle bouffait du curé, elle était très anticléricale, mais en même temps très réactionnaire. Alors là, elle était franchement à droite de la droite, hein, disons. Donc on avait des discussions extrêmement sévères, mais on s'adorait. J'ai toujours aimé ça.
Alors vous écrivez que finalement vous découvrez la correspondance de vos parents au moment du printemps 2018, au moment où il y a une agitation sociale en France, notamment qui a opposé les cheminots français, ça vous concernait, puisque bon, les cheminots, ouais, c'est une profession qui vous parle, puisque c'était celle de votre papa. Et vous écrivez « Pour convaincre la population d'accepter l'abandon d'une partie des prérogatives du service public ferroviaire, la communication de l'entreprise et du ministère des Transports s'est fondée sur un argument destiné à frapper les esprits et à faire accepter la réforme. C'est ainsi que la droite désigne depuis longtemps le minutieux démantèlement des acquis sociaux. On peut dire aussi faire sauter les verrous dans la novlangue entrepreneuriale qui tient lieu de programme politique. Selon cet argumentaire, les cheminots jouissent d'un statut honteusement privilégié dont ne bénéficie pas l'immense majorité des honnêtes travailleurs de France. Jouer la division du peuple, vieille pratique des puissants. Ce n'est pas le lieu d'en débattre, mais quand je vois la vie qu'a menée mon père pendant des années, je me dis que les énarques qui dirigent le pays, nés pour la plupart dans la dentelle et le pognon bourgeois, ont une idée très intéressante de la notion de privilège quand elle s'applique aux autres. Et bang.
Oui.
Vous êtes comme ça, Jean-Marie.
Oui, 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 j'ai une petite tendance à... un petit fond pamphlétaire, ça m'arrive
d'écrire. Ça soulage.
Oui, oui, et puis j'aime bien ça. J'écris des chroniques dans Ciné Mensuel, par exemple. Et oui, ça fait partie de mon tempérament.
Alors, destin et hasard sont deux mots synonymes chez vous?
Oui, c'est une question. Moi, je ne suis pas du tout philosophe, en fait. Je ne lis jamais de livres de philosophie.
Il ne faut pas dire, il ne faut pas l'avouer.
Mais je le dis sans fierté, parce que c'est... C'est comme ça. Et donc, je ne crois pas au destin, je ne crois pas au hasard non plus. Et pourtant, l'un et l'autre sont des données essentielles de nos vies. En tout cas, ce sont pour moi des questions sans réponse.
Néanmoins, semble-t-il, lorsque vous retrouvez Lise à la terrasse d'un café, donc votre nièce, qui a écrit, je crois qu'elle vient vous présenter... les textes qu'elle a écrits sur sa tante.
Oui, c'est ma fille, hein, c'est ma fille.
C'est votre fille, oui. Lise, pardon. Mmh. Il me semble que c'est le 3 mai et c'est le jour anniversaire de Annie.
Et alors, oui, il y a des hasards comme ça, c'est vrai que...
En revanche, là je vous retiens, vous confondez la date de disparition de votre maman, vous ne savez plus si c'est 2012 oui. ou 2013.
Oui, non, mais
vous
je
avez
connais
une
même...
amie qui vous dit, mais comment est-ce possible d'oublier la date du décès de ses parents? Enfin,
eh bien,
Jean-Marie Laclaftine.
Eh bien, oui, mais ça n'est pas par manque d'amour, je crois. Mais c'est que j'ai une petite difficulté avec le temps.
Oui, oui, je m'en suis rendu compte. Hein. C'est vous l'avouez, ça que vous l'avouez, oui. D'ailleurs.
Mais c'est peut-être pour ça qu'on écrit, justement, le temps étant un des ingrédients essentiels de la littérature. Hein. On n'écrit que sur le temps, à partir du temps, avec le temps ou contre le temps. Et moi, c'est vrai que je n'arrive jamais à me souvenir des dates, de la chronologie. Et je pense que c'est important pour moi d'écrire des romans, justement parce qu'un roman, c'est un fil tendu d'une date à une autre. C'est le temps retrouvé. Et construire un roman, c'est aussi se rendre maître du temps.
Et puis je termine.
Provisoirement.
Oui. Et je termine aussi par cette phrase que j'aime bien, je trouve. Je pense qu'elle peut réconforter pas mal de nos auditrices et auditeurs ce matin sur Radion. La vie. Vous écrivez cela au moment, je crois, où vous retrouvez trace de Gilles, donc le petit ami de votre sœur qui est morte noyée le 1er novembre 68. Et vous écrivez : la vie n'est pas si chienne. Elle s'amuse à donner de temps à autre de petites leçons d'optimisme aux broyeurs de noir. Et je trouve que finalement, on peut terminer comme ça.
Oui.
Une amie de la famille, c'est votre dernier récit, Jean-Marie Laclaftine, aux éditions Gallimard. Merci à vous du temps que vous nous avez accordé. Et merci aussi de ce texte poignant, émouvant, et les photographies aussi qui ajoutent à l'émotion, plus tout le travail de reconstitution autour de 50 ans après la mort de cette grande sœur qui n'est plus un fantôme, mais qui maintenant est un personnage de papier et qui existe réellement, en tout cas pour nous. Merci Jean-Marie Laclaftine.
Merci à vous. Au revoir.